Il le joue en si.
Il faut
écouter ça, ce truc de Shostakovich, c'est monstrueux. En fait, on va pas dire septième majeur, c'est une quatorzième. Ça, c'est une position que Bill Evans pourrait faire. Une vidéo assez technique aujourd'hui parce qu'on va comparer deux arrangements, deux versions d'un même thème par deux pianistes qui sont deux légendes, qui sont moi mes deux influences principales et puis qui sont parmi les pianistes les plus importants, les plus influents dans l'histoire du jazz. Je veux parler de Bill Evans et de Clare Fischer. Voilà, ces deux figures incontournables. À tout le moins, quand on aime l'harmonie et qu'on s'intéresse aux beaux pianos, aux conduites de voix, à tout ça, c'est un langage, il y a un pianisme, il y a des procédés, il y a une culture, il y a une technique. Quand on est pianiste de jazz, ou même quand on est simplement mélomane, quand on s'intéresse à ce langage-là, c'est un peu difficile de passer à côté de ces deux musiciens. Alors, avant de rentrer dans le détail, parce qu'il va y avoir du très lourd. Et j'ai peur de perdre certains d'entre vous parce que, je le dis tout de suite, ça va être là, on va vraiment rentrer dans des détails très techniques. Alors, c'est très beau, mais c'est vrai que c'est très complexe et peut-être que certains vont décrocher. Alors, avant que je vous perde, quand même, je vais pas exceptionnellement, d'habitude, je le fais à la fin. Là, je vais le faire au début. Je passe un peu les annonces. Donc, mon actualité, avant de parler des autres, on va parler de Bill et de Clare Fischer pendant une heure. Le disque, ça y est, il est disponible, il est sorti. Fling, je suis très content, on est très content. Voilà. Il y a déjà un très bon accueil presse. On a eu un peu de la radio, des émissions qui ont déjà été enregistrées, d'autres à venir, de la presse à venir, il y a déjà eu un petit peu. Enfin voilà, ça, l'accueil est super, ça se passe bien. Certains d'entre vous m'ont dit ne pas l'avoir commandé ou il n'était pas disponible dans certains magasins. En fait, on était en rupture, on a été victime de notre succès. On est sur des ventes de CD, c'est un truc de dingue, quoi. Donc, nous avons fait un réassort, j'ai signé le BAT là, il y a la semaine dernière. Donc allez-y, n'ayez pas peur de commander le CD. Vous savez, ça aide la chaîne. Je préfère ça. Je préfère que vous alliez regarder mes partitions, les méthodes, les disques. Il y a l'essai, ça y est, l'essai. Je ne veux pas tout mélanger parce que ça ferait une actualité trop chargée. Mais voilà, si vous voulez aider la chaîne, outre le fait de liker, de vous abonner, tout ça, de vous procurer ma production artistique, ma production culturelle, c'est pour moi ce qu'il y a de plus noble. Ça met tout le monde d'accord, les éditeurs, les distributeurs. Ça n'apporte pas grand-chose à YouTube, mais on s'en moque un petit peu. Voilà, c'est tout pour le... Et un dernier truc important, nous serons au Sunside du 12 avec ce répertoire, et puis il y aura d'autres choses, des surprises peut-être, des choses que vous n'avez pas encore entendues. On sera au Sunside du 12 au 14 mars. Voilà, donc ne tardez pas trop à réserver vos places. Et voilà, alors allons-y. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un standard qui s'appelle « Here's That Rainy Day ». Here's That Rainy Day. Alors, Here's That Rainy Day, c'est une chanson, mais qui est archi connue. Oui. La chanson, j'étais en train de penser à voix. Est-ce que c'est le standard le plus joué? Peut-être pas forcément. C'est pas le standard qu'on apprend en priorité. C'est pas celui qu'on joue le plus dans les jam sessions. Ça reste quand même une très belle mélodie, un très beau thème. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, c'est une chanson de Van Heusen, OK, qui date de 1953. Ok, 53. Pourquoi je donne... Alors, ça vient d'une comédie musicale. Intéressant, toujours cette histoire. Vous voyez, quand je dis comédie musicale, les jeunes, enfin, ou même ma génération, on a tendance à voir ça un petit peu comme quelque chose de suranné. On se dit, bah oui, c'était les comédies musicales. Non, il faut bien comprendre que les comédies musicales de l'époque étaient comme nos comédies musicales actuelles, d'aujourd'hui. Faut pas juger en faisant une espèce d'anachronisme. En voyant ça déjà comme quelque chose un petit peu de passé ou de... Non, c'était hyper moderne. Et d'ailleurs, il y avait des tubes. Et cette comédie musicale, là, Carnival in Flanders, alors ça doit être en français, le Carnaval des Flandres, j'imagine. J'ai pas regardé. Ne me tombez pas dessus en commentaire quand je fais des petites fautes de traduction. Je fais ce que je peux. Et puis, comme ça, vous m'aidez, on fait ça ensemble, c'est très bien. Donc, tout ça pour dire que la chanson est sortie en 53 et que le premier arrangement, eh bien, il date de 66, c'est-à-dire que Clare Fischer a fait le premier arrangement 13 ans après la sortie. C'est comme si moi, aujourd'hui, j'enregistrais, on est en 2026, que j'enregistrais une chanson en m'inspirant d'une mélodie ou d'une comédie musicale ou d'un film qui serait sorti en 2013. Juste pour qu'on voit bien la parenté, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de manipuler un objet qui était une espèce de chanson traditionnelle ou un truc qui avait déjà 50 ans, comme on fait nous, les pianistes qui reprennent des standards, en l'occurrence de Broadway, ils le font, ça fait 80 ans qu'on les joue. Là, la chanson était assez fraîche, une grosse dizaine d'années, quoi. Okay ? Et alors, il y a deux versions. Une version, comme je disais, de Bill Evans, qui est peut-être la version la plus connue, mais ça n'est pas la première. Et ça, c'était... Alors, évidemment, je connaissais la version de Claire Fisher, mais j'ai toujours pensé qu'elles étaient sorties à peu près en même temps, voire que celle de Claire Fisher était postérieure. Eh bien non, c'est le contraire. Alors ça, c'était assez étonnant. C'est-à-dire que l'album dans lequel on entend Here's That Rainy Day chez Bill Evans, eh bien, c'est l'album Alone, qui est sorti c'est chez Verve, je crois, j'ai pas noté. Mais oui, c'est chez Verve. Donc ça a été enregistré en 68. Okay, la chanson sort en 53, Bill enregistre en 68. Et le CD sort en 70, et il gagne un Grammy avec cet enregistrement en 71. Et puis ensuite, la version de Claire Fisher. Donc Claire, lui, il est né un an avant Bill Evans, il était de 28. Il a vécu beaucoup plus vieux, vous savez. Eh bien, c'est sur l'album Songs for Rainy Day Lovers. Alors, Songs for Rainy Day Lovers, vous m'avez déjà entendu parler de cet album. Avec Alone, ça fait partie peut-être des 5 albums. Je mettrais dedans sans doute les Singers Unlimited. Si je devais partir sur une île déserte, il y aurait dedans Songs for Rainy Day Lovers et Alone. Parce que c'est quand on est pianiste et qu'on aime l'harmonie, c'est incroyable, quoi. Bon, eh bien cet album, Songs for Rainy Day Lovers, il a été enregistré en 66, c'est-à-dire 2 ans avant Alone. Et il est sorti en 67. Alors pourquoi je précise ça ? Parce que on va comparer les deux versions, c'est-à-dire qu'on va vraiment regarder dans le détail. Et il y a des similitudes, il y a des procédés qui sont quasiment identiques. Alors, Bill connaissait Claire Fisher. Ah tiens, anecdote, avant que... l'introduction est longue, mais ça, vous allez comprendre, c'est important tout ce que je dis là. Bernard, qui était... Bernard Maury, quand je dis Bernard, c'est Bernard Maury, racontait cette anecdote. Il était chez Francis Podras, avec Bill. Et vous savez que Bill, je l'ai déjà raconté cette anecdote, Bill était un lecteur incroyable, alors il s'amusait à lui foutre des partitions. C'était un des plus grands lecteurs à vue de l'histoire du jazz. Bill, c'était assez incroyable, quoi. Et question de Bernard à Bill, « Ah, mais toi, Bill... » Donc c'était, on parle, c'était le concert de Cardin, donc 79, un truc comme ça. Bill, qui t'impressionne harmoniquement ? On parle quand même de... C'était Bill, quelques années avant sa mort, au summum de son art, un maître de l'harmonie incontesté, quoi. Réponse de Bill, Claire Fisher. Il avait une admiration sans borne pour Claire Fisher. Claire Fisher disait aussi à propos de Bill, « We came up with the same ideas at the same time. » On a eu les mêmes idées au même moment. Et c'est vrai que... On va regarder que parfois il y a des conduites de voix et tout, on se dit, mais c'est vraiment, c'est assez, on sent que ça appartient au même arbre, hein, c'est la même sève. Sauf que, et on va regarder dans le détail, après j'arrête de parler, on voit quand même qu'il y a une influence chez Bill, alors peut-être pas dans cet arrangement, mais d'une manière générale, c'est quand même, c'est Bach. Voilà, Bill, l'influence principale, c'est Bach. Je sais que les gens sont étonnés, c'est aussi la musique française, c'est Ravel, Debussy, mais c'est après. La première influence harmonique, technique, dans les techniques d'harmonisation, les appoggiatures, les dômes de dôme, les dominantes surtoniques, tout ça, c'est qu'on a ça dans le clavier bien tempéré, quoi. Et on le sait parce qu'en plus, on a des bandes où on sait que Bill s'entraînait, il jouait Bach, il a joué l'art de la fugue. Il y a une... comment dire... c'est pour eux, hein, tout ça, c'est passé, on sent qu'il y a une filiation, quoi. Alors que du côté de Claire Fisher, bah, clairement, et là, on va regarder, on est beaucoup plus chez les Russes. Alors, évidemment, qui connaissait Bach, qui connaissait tout ça, la musique française, aucun doute là-dessus. Mais peut-être si on devait mettre un tout petit peu en avant une influence, eh bien, ce serait plutôt du côté de Shostakovich et de Stravinsky. D'ailleurs, il a fait une chanson qui s'appelle Igor, et même, on va regarder dans cet arrangement, on retrouve... Il l'a dit, d'ailleurs, il l'a écrit quand on lui parlait de ces fameuses appoggiatures de septième. Il dit, mais non, mais ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, j'ai pris ça chez Shostakovich. Et effectivement, on va retrouver presque verbatim. Alors, verbatim, j'exagère. Mais la conduite, oui. C'est une conduite qu'on entend dans un autre ton, mais exactement la même dans la première symphonie, le troisième mouvement de la première symphonie de Shostakovich. Alors, ça, c'est quand même assez étonnant. Alors, allons-y. Un mot d'abord sur le thème. Donc, il s'agit de Here's That Rainy Day. On va regarder que le premier A, parce que c'est là, on peut comparer la version de Bill Evans. Et Claire Fisher, lui, son piano, ce sont deux pianos solos. Hein. Son piano solo n'est que sur la première partie. Alors, de quoi il s'agit ? Donc, on est en sol. Voilà. Et On va tout de suite moduler. C'est la composition de ce thème, les procédés sont très étonnants parce qu'en fait, on va avoir plein de couleurs, plein de tonalités différentes et c'est ce qui donne son charme aussi à ce morceau. Donc on est en sol, on commence sur la quinte et puis tout de suite, on va aller à la dominante pour aller au bémol 6 majeur. En épelant la triade de si bémol. Voilà. Donc on a fait la bémol et on revient, ok, on a fait 1, 4, on était en mi bémol et on revient en sol par le 2, 5 sur la 11e. Là, on analyse bien les notes d'extension. Ok, on va au 4e degré et le 4e degré est 4 mineur. Alors on se dit, bah 4 mineur, bah oui, ça pourrait être une plagale mineure, on pourrait faire ou simplement. Ok, mais non, en fait, ce 4 qui pourrait être mineur si on faisait un emprunt, par exemple, en sol naturel, en réalité, c'est le 2 d'un 5. Et on va faire une nouvelle modulation, cette fois-ci, on va plus vers le bémol 6, mais on va vers le bémol 3. On va en si bémol, avec des sixtes. Ok. Et on revient. Voilà. Ok, donc première modulation, on va en mi bémol, on fait 1, nouvelle tonalité, 5, 1, 4, on revient, 2, 5, 1. Et on va au bémol 3 par un 2, 5, 1, 4, et on refait 2, 5, 1. Voilà. Maintenant, ce serait trop facile. Il ne joue pas ce thème, ni Bill Evans, ni Claire Fischer, il ne le joue pas dans le ton original, enfin le ton original, le ton attendu. Est-ce que ça se jouait ? J'ai pas écouté la comédie musicale, il faudrait regarder quel est le ton de la chanson, mais en général, on le joue en sol. C'est pour ça que je vous ai montré l'exemple en sol. Il le joue en quoi ? Il le joue en si. Ben ouais, tonalité qui n'est pas du tout coutumière quand on fait comme ça des standards. On se dit, c'est vrai qu'on n'est pas habitué, les musiciens de jazz n'aiment pas ça, il y a beaucoup de dièses, on n'aime pas quand il y a trop de dièses, trop de bémols. Bon, alors première réflexion, déjà, il faut transposer, il faut travailler la transposition. Je sais que j'ai vu certaines vidéos de créateurs de contenu, c'est comme ça qu'il faut dire maintenant, qui soyons très vulgaires, un peu putaclic quand même, en disant « mais vous n'avez pas besoin de transposer ». Bon, non, c'est faux. Si vous voulez progresser, vous devez transposer. La base de ma pédagogie, c'est de transposer les exercices. Si on veut maîtriser le clavier, si on veut maîtriser l'harmonie, si on veut être à l'aise dans les tonalités faciles, il faut transposer. C'est indispensable. Et puis, on a depuis Tatum, depuis Peterson, depuis si vous travaillez avec des chanteurs, et puis voilà, il faut... C'est important. Alors, pour plusieurs raisons, parce que déjà, on va pouvoir adapter la mélodie à un registre différent. Transposer, c'est changer la hauteur. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on va se déplacer, on va déplacer la hauteur du son, pour le dire très simplement. Puis, il y a un autre facteur, c'est aussi la couleur de la tonalité. Vous voyez, sol est assez brillant, alors que si on va en si, évidemment, le ton de si est beaucoup plus doux, même par rapport à do. Je parle pas de ré bémol aussi, très doux. Vous voyez. Donc, ça veut dire qu'on peut obtenir d'autres... Dans le cadre d'une balade, ça colle tout à fait, on est très très bien. C'est pas le seul critère, on pourrait jouer un morceau triste dans un ton brillant, on pourrait jouer un thème très pétaradant dans une tonalité plus douce. Parfois, enfin si, ça marche aussi. Mais c'est des choses parfois qu'on fait inconsciemment, on se dit tiens, on est plutôt attiré par une tonalité parce que la couleur fait que ça colle plus à l'esprit qu'on veut obtenir, quoi. Donc, une balade avec quelque chose de très intimiste, le ton de si, c'est parfait, quoi. On va commencer par la version de Bill, ok, parce que c'est la plus connue, parce que c'est la plus simple aussi. C'est la plus simple des deux, vous allez voir. Alors, je passe l'intro. On en avait déjà parlé avec Cédric, cette intro qui est, vous savez, avec tous les... qui est incroyable, avec les sixtes augmentées, il y a une grande pédale. Mais j'en parlerai peut-être à la fin, parce que bizarrement, on ne le retrouve pas comme ça, mais on a chez Claire Fischer aussi, on retrouve un sol basse de fa dièse. Alors on se dit, tiens, est-ce que, sans doute, ça vient, on a ça dans le classique, en veux-tu, en voilà. Bon, c'est comme ça. Alors, allons-y. Donc, je le fais quand même une fois dans le ton, dans le nouveau ton. Avant de transposer, ce qu'il faut toujours faire, c'est jouer une fois la mélodie de manière très simple dans la nouvelle tonalité. Donc vous voyez, on a analysé les degrés. On a commencé sur 1 et on va au bémol 6. Donc on commence sur 1. Okay. Et puis on va aller en sol. Donc en passant par la triade de ré. Okay. Pour aller au 4e degré, do. Et puis on revient en si par le 2-5. Okay. On va au 4 de la nouvelle tonalité, c'est-à-dire mi mineur. Le 2, 5, 1. Okay. Et on retourne au ton principal de nouveau. Avec ces mouvements en sixte. Voilà, ça c'est l'analyse mélodico-harmonique. On a fait un petit peu le tour. On était en sol tout à l'heure, donc on commence en si, on va en ré, ensuite on va en sol. On revient à la tonalité par un 2, 5. On repart sur le quatrième degré pour aller en ré majeur. Le quatrième sol majeur. Et puis enfin, on retourne par le 2, 5 au ton principal. Ça c'est un truc qu'il faut faire comme ça très très vite, avoir les... Là je passe un petit peu, vous ferez ça, vous revisionnerez la vidéo. Donc on devrait avoir, alors vous avez vu, volontairement je vais faire des harmonies très simples pour ne pas empiéter sur l'analyse. Donc on commence, on a un si majeur et on devrait avoir... Voilà, ça sonne hein, déjà, dans ce ton-là, c'est super quoi. Mais que fait Bill? Que fait Bill? Oh putain, on va pas pousser des cris pendant toutes les vidéos, mais c'est déjà rien que le début. C'est-à-dire que on commence sur un si majeur, mais il reste pas comme ça. Pour ensuite aller vers ré. Non, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Alors, premier degré. Dominante chromatique, sixte augmentée, pour aller vers le quatrième degré. Donc en fait, ça c'est une façon, dans l'esthétique du piano solo, c'est une façon de marquer les temps pour donner une impulsion rythmique, pour faire un découpage rythmico-harmonique de la mesure. Donc il pourrait faire... C'est-à-dire simplement aller du 1 au 4. Mais il va passer par le Fa 13 bémol 9 qui va au 4e degré. Alors sachant que le 4, c'est une position d'attente. Et vous avez vu qu'à chaque fois, quand on a les modulations, on a toujours 2, 5, 1, 4. 2, 5, 1, 4. Et au début, on a simplement 1 et le 5 du bémol 6. Donc ce que va faire Bill, en fait, c'est qu'il va rajouter d'office le 4e degré. Si majeur et mi majeur. Mais avant le mi majeur, qu'est-ce qu'il met? Eh bien, il met l'accord, il met la dominante chromatique qui passe. Il aurait pu faire 6-7. Mais il le renverse sur la bémol 5. Ça fait Fa 13 bémol 9. Voilà. Pour continuer, et pareil, il ne va pas tout de suite au Ré 7. On attend ça. Non. Il revient au premier degré. Donc on a fait 1... Si 7, enfin Si majeur, Si 7 basse de Fa ou Fa 7, dominante chromatique, sixte augmentée, sub 5. On va au quatrième degré, lydien bien sûr, hein, ça c'est la sensible du ton. Et cette fois-ci, on retourne au premier degré, premier renversement, Si majeur basse de Ré dièse. D'ailleurs, vous remarquerez quoi? Ça c'est un peu des règles d'harmonie quoi, pas de doublure de la basse. C'est pas que ce serait fautif, mais on évite sur l'accord de 6 ou 6, 5 de doubler la basse, ok? Le sus 4, donc on a Si majeur, je te redis, hein, Si majeur, Ré sus 4, et enfin, et le voilà, et il arrive en toute fin de mesure. Ça, c'est la signature Bill Evans, décalage du point d'harmonisation. On repousse le plus possible l'expression tritonique, l'expression fonctionnelle qui nous pousse à avancer. Donc on a décalé le Ré 7 en fin de mesure. Et on arrive enfin sur le Sol majeur 13, Fa dièse au chant, 7e. Donc, assez tendu, c'est presque entendu à ce moment-là comme une note d'extension. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Mouvement classique. Normalement, vous savez, on devrait avoir la sensible qui monte à la tonique. Alors attention, hein, on est en Si majeur, mais c'est une nouvelle tonalité. Donc on arrive là, on a cette couleur. Mais quand même, donc on a la 7e, la 13e, la 9e, la tierce, la 7e. Et on va avoir... Voilà, ce petit mouvement. Ça, c'est pareil, typique. Vous avez ça chez Bill tout le temps, même quand il improvise. 7-6. Et quel est l'intérêt de faire ça? C'est que déjà, ça permet d'alterner tension-repos, tension, parce que la 7e est tendue et la 6e est beaucoup plus douce. Et en même temps, ça marque le temps de la mesure. Donc ça permet, bien qu'étant en piano solo, de marquer les 4 temps de la mesure, mais d'une manière très discrète, juste avec un mouvement au ténor. La classe quand même. Hop, il se repose là. On va au 4e degré, on a vu, on va de Sol majeur à Do majeur. Qu'est-ce qu'il fait cette fois-ci? Il répète sa petit fragment mandal de Sol, et maintenant, nouveau procédé, majeur parallèle. On pourrait avoir Ré Do dièse ou Ré bémol 7, ok? Et là, ah oui, j'ai pas précisé, je lis la transcription de Bob Hinz, d'accord? Majeur parallèle, on arrive sur le 4e degré. pareil, beaucoup de mouvements dans tout le thème. Là, c'est un des procédés assez typiques de Bill. Beaucoup de mouvements ténors pour nourrir le découpage rythmique du thème. Parce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est vraiment... Vous voyez ? Comme ça, on sent bien, dans la mesure, il y a quand même une impulsion, on n'est pas rubato, quoi. Okay ? Ensuite, on va retourner au ton principal, do dièse mineur. Et là, cette fois-ci, on a un découplage main droite, main gauche. On va avoir des éléments, voilà. Et le jeu en dixième encore, qui va venir donner le découpage rythmique de la mesure. 1, 2 et 3, vous voyez ? Et on va avoir le fameux ascenseur, c'est-à-dire qu'on va faire 2, 1, basse 2, 3. C'est joli, avec en plus ce mouvement ici. Donc là, découpage 1, 2 et 3 et 4. Tout y est, quoi. On retourne au quatrième degré. Ok, on est toujours en si, hein, je vous rappelle. Là, on a fait do, ré, mi. Ok, lydien, évidemment, hein, c'est-à-dire lydien. Pourquoi j'ai lydien ? Non, il n'y a pas de la dièse encore. Il arrive ici. Voilà, mi. Voilà. Et ensuite, le cinquième degré. Ok, fa dièse, avec la neuvième. Pour aller au sub 5, dominante chromatique, sixte augmentée, enfin surtout sub 5 là. Et enfin, on se repose sur le premier degré. On a fait un premier tour, on a fait une première passe, et là, si de nouveau ce mouvement, vous voyez, c'est une itération, ça va venir comme une sorte de... en filigrane, vous voyez, dans le... Ok ? On doit maintenant s'acheminer vers le 4 mineur. Hein. On doit aller, on était en si, on doit aller en mi mineur. Et on va y aller. C'était pas, je sais plus si c'était dans la chanson originale. Bill ajoute un 2-5. Donc on est en si majeur. Sol 13, qui nous amène à fa dièse mineur. Et on va faire fa, si, mi. Fa dièse mineur avec la 9e au chant. Ok. La 7e descend à la 6e. Le si 13, et on a de temps en temps chez Bill, voilà, vous m'avez entendu critiquer, comment il s'appelait, Isaichi, je pourrais en reparler un petit peu. Voilà, c'est pas interdit d'empiler les tierces, certains pianistes le font, dans un certain contexte, c'est pas les voicings que je préfère chez Bill, mais il le fait avec tellement de, c'est tellement riche, et ça vient dans un contexte où il y a tellement d'autres choses que, bon, voilà, on pardonne, c'est complètement crétin ce que je dis, enfin, vous avez compris. Ok. Voilà, et on se pose enfin, c'est le deuxième temps, maintenant on va aller en ré majeur. On était en si, on a fait un premier tour en sol, et maintenant on fait le 2-5 pour aller en ré majeur. Ok, on continue. Là, alors, le découpage de ce que propose l'auteur du livre, là, je sais, on ne sait pas, Bill avait de très grandes mains, ça se trouve, il a pris la dixième comme ça, ça se trouve, il l'a découpé. En tout cas, il y a ça, c'est beau, ça. Encore le... comment dire, encore le ténor qui donne cette marque rythmique. Ici. Re, encore ce procédé. Bémol 6 qui descend à 5, qui arrive à 1. Double du soprano, hein, on les retrouve toujours. Voilà. Et ici, du 1-5. Donc, si bémol 7 qui va à la 9. Alors, chiffre dièse 5. Oui, c'est vraiment un mi dièse. Ce qu'on va avoir. Ouais, on entend ça vraiment. Encore le ténor qui vient donner l'impulsion rythmique, qui vient donner le découpage, qui vient nous aider à penser, à comprendre l'impulsion rythmique qu'il y a dans cette mesure. 2. Et après, j'ai les bonnes lunettes. Voilà. Ici, ré majeur 7. Il n'y a pas la fondamentale, mais on s'en fiche. À fondamentale sous-entendu, rootless voicing, comme disent les Américains. Basse de la, qui va vers la bémol 13, hein, avec la 9e et la 13e, qui continue vers le 4e degré. Toujours un 1-4-1-4. On était en ré, on va en sol en passant par le premier degré renversé sur la quinte, le sub 5, sixte augmenté, qui va sur le sol majeur. Encore un découpage, enfin, encore une ligne pour donner, comment dire, le rythme de la mesure. Donc là, on a des triolets, tierce main gauche. Et puis, on va finir cette première période, toujours avec des dixièmes, mais cette fois-ci, le découpage est encore un peu différent. On a... Vous voyez pourquoi à chaque fois je dis pouce au ténor et à l'alto ? Parce que c'est pour aller chercher à chaque fois les dixièmes. Voilà, on est en plein dans les raisons pour lesquelles tout ce que vous faites dans les bas, ça vous prépare à jouer ce type de thème. Et là, en fait, il va laisser passer le premier temps et l'accord arrive sur le upbeat, quoi, sur la levée. Voilà, donc il y a d'abord la tierce au ténor, ensuite l'accord. Répétition de la tierce du ténor, ok ? On continue de monter, toujours cet ascenseur, hein, vous voyez, c'est 2, 1, basse 2, 3, 4, ok ? Toujours le même principe. On pourrait mettre le 3 mineur, mais là, il met vraiment le 1, l'accord de tonique à l'état de premier renversement, quoi. Cet accord, hein. Il frotte un petit peu, c'est sûr qu'on n'est pas habitué à entendre ça, mais il a son charme. Ok, on continue. On est au quatrième degré. Pareil, et on est revenu au ton principal, on arrive sur la sensible, il y a le la dièse, mais tout de suite, toujours ce même mouvement, vous voyez, c'est cohérence, ça nous donne une espèce de... Ça envoie des signaux de cohérence. Voilà, ça donne un fil conducteur sur toute la réalisation. C'est le génie, c'est l'intelligence de ces réalisations, c'est qu'elles ne sont pas simplement ambitieuses et qu'elles nous proposent des couleurs incroyables. C'est qu'il y a aussi une esthétique, il y a un parti pris, il y a quelque chose, il y a une logique dans les choix d'harmonisation, il y a une continuité. C'est fin, c'est ça, hein, c'est la marque des plus grands. C'est la marque d'un arrangement bien fait, c'est aussi quand on n'est pas paumé. Sauf si c'est une volonté, je pense à Solal ou des pianistes qui veulent la rupture. Bon, c'est encore un autre... Mais quand on cherche une cohérence de langage, bon, il faut des outils, puis il faut chercher à les aboutiquer, quoi. Alors, si majeur, et là, pareil, on va avoir un mouvement qui est magnifique, c'est pas nouveau, mais c'est tellement bien fait, puis avec le registre, c'est super. Donc on va avoir 1, 6, 4 et 5. Si majeur, sol dièse mineur, mi majeur, fa dièse 7. Et il le fait comment ? Donc on a... 7, encore une fois, hein, donc on a à la fois la 13e et la 7e, ce mouvement, et on arrive au 6e degré. Qu'est-ce que c'est beau ça! Voilà, c'est un cluster, tout simplement, voilà. Un beau sol dièse mineur 11. On a là, alors Bill fait beaucoup à ses positions comme ça, hein, vous les avez beaucoup, 1, 7, 9 ici, avec 3. La 11e, quinte, 7, 9. Voilà. Continue ici, c'est-à-dire encore un cluster. Un cluster, c'est quand vous avez des agrégats comme ça de sons, hein, au moins 3 tons ou 3 demi-tons consécutifs. Ok ? Donc ici. Mi majeur, pareil, avec ici cette belle empreinte. En plus, on est le fait de jouer en si nous permet d'avoir ces paquets, ces agrégats dans le milieu du clavier. C'est magnifique, quoi. Ça sonne, c'est terrible. Ok ? On continue. Encore, on va jusqu'au do dièse, le 2, hein, le 2 du 5 pour retourner à la première, au ton principal. Tiens, bon voilà, empilement de tierces, mais c'est pas grave, ok. Et puis, et c'est reparti, on a fini la période, on va continuer le thème. Et il va reprendre à peu près le même, comment dire, les mêmes procédés, mais il va les découper un peu différemment. Mais c'est grosso modo à peu près la même chose. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on dit là-dessus, l'analyse, voilà pour les notes, et voilà l'analyse un peu harmonique, enfin, ce que j'en pense, hein. D'autres vous donneraient peut-être d'autres informations. Bon, c'est monstrueux, je veux dire, je vais pas me rouler par terre, quoi, mais ça fait partie des plus belles pages de l'histoire du jazz, vous avez compris, j'en ai parlé, c'est... Bon, je m'attarde pas là-dessus. Quand même, à noter, c'est un peu une leçon de... Enfin, c'est une leçon, c'est une des esthétiques qu'il faut comprendre et qu'il faut repérer pour la façon de donner ce découpage de 4 temps dans les balades ou même dans les médiums, parce que faut comprendre que cette façon de faire, elle était quand même assez révolutionnaire. Est-ce que le mot « assez » n'est pas de trop ? Je crois que c'est révolutionnaire. Je m'explique. Le découpage du temps, vous savez, dans l'histoire du jazz, avant, c'était la pompe, vous voyez, quand on faisait du stride. Ensuite, ça a été les quatre notes jouées, c'est le strum de guitare, puis le walk, c'est... Jimmy Blundell, je crois, hein, le premier qui a fait ça, le contrebassiste. Et puis, voilà, petit à petit, le piano solo a évolué. Et c'était quand même nouveau de se dire, on va marquer les temps de la mesure, on va marquer les quatre temps, on va donner vraiment des éléments rythmiques qui vont permettre de comprendre. Il n'y aura aucune ambiguïté, on ne sera pas rubato, ce sera à tempo. Mais plus simplement en faisant les mêmes éléments harmoniques et en les découpant en faisant une pompe, ok ? C'est-à-dire pas en faisant... Ou en faisant si majeur, voilà, si majeur, si majeur, si majeur, ok. Non, cette fois-ci, en se servant des accords de passage pour donner, pour nourrir la mesure et pour donner cette espèce de gradation rythmique. Vous voyez ? Ça, c'est nouveau quand même. C'est-à-dire qu'on pourrait rester sur Si majeur, aller sur Mi majeur, mais en gros, c'est l'idée de venir se servir de ces connaissances harmoniques et des accords de passage et de faire en sorte qu'ils coïncident parfaitement avec la mélodie pour venir nourrir l'harmonisation du thème. Ça, c'était quand même... c'était révolutionnaire, quoi. C'était révolutionnaire. Donc ça, c'était Bill Hears That Funny Day. Voilà. Il y a peut-être encore plus révolutionnaire. Bah oui, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'était 2 ans plus tôt, parce que maintenant ce qu'on va regarder, c'est la transcription que j'ai faite. Pour une fois, j'ai chiffré toutes les conduites de voix. Et ça, c'est Bill qui faisait ça. On a des manuscrits où il chiffrait, par exemple, quand il y avait deux cartes, l'une des deux qui va à dièse 4 et le sus 4 qui va à la tierce, il chiffrait les conduites de voix. On a ça 4, dièse 5... avec des traits, et je me suis dit, en fait, on va prolonger ce système-là, parce qu'en fait, la beauté de l'arrangement de Claire Fischer, c'est qu'il est très complexe, mais il y a une logique dans les conduites de voix, mais qui est... Non, mais il n'y a pas de mots, c'est-à-dire que c'est unique, dans l'histoire de la musique, on a, peut-être avec Jarrett, on va retrouver ça, mais même ce qu'on entend là, c'est d'une complexité, ça a influencé Hancock, Hancock a dit qu'il était influencé par Claire Fischer. Je veux dire, c'est les deux racines quand même dans l'histoire harmonique du jazz, il y a un truc qui se passe là, voilà. Alors allons-y. Donc je vous disais, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en si. Je refais pas, c'est la même mélodie, c'est à la basse, c'est censé être la même progression, donc on est censé avoir ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Que va nous proposer Claire Fischer? Alors allons-y. Premier accord, si... 6-9. Ah, 6-6-9. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur les accords de tonique? Qu'on évitait de mettre la sensible, la septième. Alors vous allez me dire, ouais, mais Bill le fait, bien sûr. Mais vous avez vu, quand il le fait, souvent, c'est presque pensé comme une tension, et c'est presque une tension qu'il résout souvent sur la 6. Ou alors, c'est assumé. Mais, c'est pas forcément le premier choix. Début du thème, clair, 6-6-9. Et tout de suite après, le fa dièse nous emmène vers un mi bémol 7, basse de si bémol pour aller vers... Oh, c'est beau, c'est monstrueux. Voilà, et il va pas, vous avez remarqué qu'il va pas vers le ré 7, non, il va d'abord vers le ré majeur 7, basse de la. Donc ce mi bémol 7, dièse 9, basse de si bémol, c'est quoi? Ben, c'est encore la sixte augmentée, c'est encore la dominante chromatique, c'est encore le sub 5, c'est pour approcher, en réalité, le ré majeur, quoi. Mi bémol 7, basse de si bémol qui approche, voilà. Pour aller en ré majeur. Majeur 7, basse de la. On monte, et là... Voilà. Et là, maintenant, j'ai commencé à chiffrer. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va avoir ré majeur, fa, la, et ici... Si, si bémol, la... Et ce qui est intéressant, c'est le pointillé, c'est que la 13e mineure, le si bémol, trouve sa résolution dans la mesure suivante, dans la 9e de l'accord de tonique. C'est ça, le truc, en fait. Okay. On était en sol, on est censé aller où après, vous vous rappelez? On fait si, ré, sol, après je me dis on va au quatrième degré. Donc on devrait aller en do, d'accord? Que fait Claire? Il va pas en do, il va en do dièse, mais mineur 7 bémol 5. C'est-à-dire que c'est un petit malin, on entend l'empreinte de do majeur, quasiment do majeur 7, mais il met do dièse en bas. C'est-à-dire qu'en réalité, on est censé retourner en si majeur, donc plutôt que de faire le 4, c'est-à-dire le do majeur de sol, il est déjà en train de nous faire le 2 du 5, il est déjà en train de nous faire le 2 dièse pour nous ramener à si majeur. Mais comment il le fait? Eh bien, il va faire, et il introduit déjà ce truc qu'on va retrouver tout le long de l'arrangement, en tout cas de ce premier A, il nous fait entendre l'appoggiature de la septième. Donc on a do dièse mineur 7 bémol 5, et on entend quoi ici? On entend vraiment un genre de locrien, ok? On entend ça. Mais le mode ne nous aide pas ici. En fait, on a la neuvième mineure, ok? Donc la neuvième mineure, voilà, si je me mets en do, si ça vous aide, ok? Non, ça ne va pas vous aider. J'ai dit une bêtise. Restons là-dessus. C'est comme si on était en ré majeur. C'est le septième degré, quoi, hein, le mineur 7 bémol 5 du ton. Donc on serait en ré. Donc ça marche. Ça marche. Ça, ça marche pas. Enfin, quand je dis ça marche, ça n'appartient pas à la tonalité ou en tout cas au mode. Donc c'est vraiment une conduite de voix. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On va avoir coexistence, la tierce mineure, double, encore une fois, hein, doublure du soprane, la quinte diminuée, la septième mineure. Mais, en plus ici, une septième majeure. Alors on a une septième mineure, une septième majeure, mais non. En fait, on ne va pas dire septième majeure, c'est une quatorzième. Ben ouais, c'est l'ultime note d'extension. On connaît les neuvièmes, on connaît les dièses neuf. Maintenant, vous connaissez les bémols 10. Ah, on a aussi les dièses 11, ben, on a aussi les bémols 13, ben, on a les 13e majeurs, ben, on a aussi les 14e majeurs. Ben oui, forcément. On va avoir coexistence de la 7e mineure et de la 7e majeure, sauf qu'on va l'entendre comme une note d'extension, donc on va chiffrer 14. Ok. Et ça, en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va tenir le si dièse, va se prolonger jusqu'ici. Alors là, je n'ai pas fait le trait, mais comprenez bien le mouvement, c'est-à-dire qu'on va... Ré, do, si. Si dièse, si. Vous voyez, ça vient jusque-là. Alors évidemment, elle, au niveau de la distribution des voix, elle est reprise par la main droite. Ça, enfin, c'est moi qui fais ça, mais il y avait de grandes mains, Fischer. Mais si, c'est logique par rapport à ce qui vient après. Mais c'est vraiment comme si on avait un retard du si dièse, quoi. Je refais une dernière fois. Voilà, et là, on a vraiment la conduite. Sus dièse 4 qui va à sus 4. Ok. Et ça, ça continue. Ici. Ça va jusqu'à la tierce. Donc on a dièse 4, 4, 3. Et ici, la septième qui va descendre à la treizième. Et la treizième va faire un mouvement jusqu'à la treizième mineure. Tout est chiffré. Donc on a dièse 4 qui arrive d'avant. Hein. Dièse 4, 4, 3. Et ça continue jusqu'à bémol 10. Dièse 4, 4, 3, bémol 10. Et en même temps, au-dessus, on va avoir la 13e majeure qui descend à 13e mineure. On continue. Et le mouvement continue, c'est-à-dire qu'on va avoir si dièse, si, la dièse, la. Et ça continue, j'aurais dû rajouter, je l'ai oublié, en fait, ça continue jusqu'à la 9e du fa dièse à 9. OK ? Fa dièse à 9. Et ça continue jusqu'au fa dièse mineur 7 bémol 9. Qu'est-ce qui manque ici? Il manquerait juste la tierce, mais on la met pas. C'est tout le charme de cette ambiguïté. On entend du mineur très sombre. Et ça fonctionne de manière subliminale comme une espèce de dominante qui dit pas son nom. C'est du Canada Dry, ça en a le goût, ça en a l'odeur, mais ça n'est pas. Voilà. Donc ici, je refais une dernière fois, c'est monstrueux. Et on se pose. Ça y est, sur un si majeur 13. Vous voyez, la gestion de l'équilibre aussi entre tension, repos. On charge, on en met un maximum, et puis après, on se pose un peu. La fondamentale est décalée, octave bassa, sub 5, voilà, le fa 7. On avance, la dièse 11 au champ, et cette fois-ci, donc c'est le même mouvement harmonique, attention, on prend une grande respiration, parce que là, il y a du très lourd qui arrive, et on continue le fameux mouvement, on va faire mi mineur, la 7, ré majeur. Okay, on était en si, on est allé en sol, et maintenant, on fait le mouvement pour aller en ré majeur. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un mi mineur, okay, mais on a en même temps la bémol 6 qui va aller à la 5, à la quinte, okay, bémol 6, 5. Et en même temps, là-haut, donc ça, c'est au ténor, et à l'alto, on va avoir 5 qui va aller à bémol 6. On a un échange. Voilà, c'est-à-dire, on entend, vous savez, quand on avait fait l'étude modale sur l'éolien, je vous disais, l'éolien, on évite de l'utiliser pour le deuxième degré parce que c'est instable et c'est plutôt représentatif, comment dire, de la fonction tonique. Bah, contre-exemple, mais c'est pris dans le cadre d'une conduite de voix. Donc là, on a vraiment... Voilà, et là, parce que ça aboutit, en fait, tout est nourri, c'est ce qui justifie cette instabilité. Déjà, c'est magnifique, mais on a un mouvement contraire pour arriver jusqu'au La7 bémol 9, avec la 9e mineure ici au ténor. Ce qui font, vous comprenez maintenant les bases de l'harmonisation, pourquoi je vous dis qu'il faut travailler le 1-9, on fait 1-7, on fait 1-3, on fait 1-9, parce que ça vient de Fischer. Voilà pourquoi je les ai intégrés, parce que personne ne le fait. Si vous faites les drops, vous n'avez jamais travaillé ça. Vous avez renversé, vous avez drop 2, drop machin, mais jamais vous aurez des positions 1-9 comme ça. Si vous faites les bases de l'harmonisation, oui, ça, d'office, C'est les trois positions qu'il faut connaître. Alors, ça s'arrête pas là, regardez comment ça se passe au ténor. Si, la, sol, sol. Ah, mais alors ça, là, il faut qu'on parle. Trois secondes de Shostakovich. Je vous disais, c'est son influence. Mais là, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'il fait... Oh, point, ben ça, c'est... La 7, sus 4, ok. La 7 bémol 9, la 9e mineure ici, qui devient la 9 sus 4, qui continue et il se sert du chromatisme mélodique pour avoir l'appoggiature de la 7e, note de passage la, sol dièse sol, ok. Donc tout est chiffré, hein. Le fa dièse va à fa, le si dièse va à do dièse. Donc on a, une fois qu'on s'est posé ici, à partir du deuxième accord, 4, 3, ok, la carte est là, et on va au do dièse, 4, 3. Deuxième mouvement, on va avoir... on va avoir que je m'y perde pas. Qu'est-ce que je fais ? B quart 7, 7e majeur qui va à 7e mineur. Ok. Troisième mouvement, dièse 9, 9 qui va à dièse 9. Ok. Donc, on va avoir ça qui va à dièse 9. Ok. Et puis enfin, on va avoir la 13e qui va à la 13e majeur. Et tout combiné, la 13e majeur qui va à la 13e mineur. J'arrive pas trop vite, ok, je redis, on refait une dernière fois. Et là, donc on va suivre une fois cette ligne-là, ok, on fait ensemble. Si, la, sol, dièse, sol. Et ça va où ? Sol, fa, dièse. Évidemment, en logique des conduites, à chaque fois, ça se résout dans la mesure suivante. C'est quand même monstrueux. Alors ce truc-là, il en a parlé, Claire, il a dit qu'il était influencé par Shostakovich. Et vous avez ça dans le troisième mouvement de la première symphonie de Shosta, où vous avez ce mouvement qui fait... Voilà, c'est ça le truc de Shosta. Donc vous voyez, en fait, c'est une espèce de facette... Il y a le basson, ou c'est une clarinette, un basson, je ne sais plus. Et puis, vous avez les violons qui font 9e mineur, octave, 7e majeur, la voilà, pour aller à la 7e mineur. 7e majeur, 7e mineur. Il faut écouter ça, ce truc de Shostakovich, c'est monstrueux. Donc, vous voyez, on a ce procédé 9e mineur qui va à la fondamentale, 8 quoi, qui va à bémol 7, qui va à bémol 7. Ben, qu'est-ce qu'on retrouve ici ? Une dernière fois, tellement c'est tellement monstrueux là, l'analyse. Le sus 4, c'est déjà la 7, mais en réalité avec appoggiature de 7e, et puis mouvement contraire, soprane, ténor, et en plus ici, les 7e comme ça parallèles au niveau de l'alto, et on arrive. Se pose. Et ça continue. Dièse 11 va à 5, qui devient la 9e mineure, qui devient la 9e majeure. Et en même temps, ici, on a 13, bémol 13. On se pose. Sol majeur 13, un petit peu. Il y en a un, hein, c'est ouf. Okay. On a presque fini. Et on continue. Ah, premier accord. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Qu'est-ce qu'on retrouve ici ? 1, 7, 3, 5, 3. Les bases, l'harmonisation, c'est ça ? Voilà, quand je vous dis. Alors ici, c'est un peu particulier parce qu'en fait, il part de do dièse mineur 7, position 1, 7, 3, 5. Et qu'est-ce qui est doublé ? Quand je vous dis, qu'est-ce qui est doublé ? Le soprane, voilà. Si vous regardez le thème, vous verrez où sont les doublures. Regardez ici. Qu'est-ce qui est doublé ? Soprane. Qu'est-ce qui est doublé ici ? Il n'y a pas de doublure inutile. Il n'y en a quasiment pas. On va pas tout passer en revue. Vous regarderez, vous verrez qu'il y a très très peu de doublons et que souvent c'est le soprane. Donc ici, 1, 7, 3, 5. 1, 7, 3, 5. Et là, on va à la basse de do dièse. Ok ? Donc encore cette parenté, accord de médiante, accord de tonique à l'état de premier renversement. Et puis on termine, et c'est le mouvement final. Fa dièse 9, encore une fois, les bases de l'harmonisation, position 1-9. Vous connaissez le 1-7, vous connaissez le 1-3, mais il y a le 1-5, mais il y a le 1-9. Et s'il y a le 1-9, il y a même le 1 bémol 9. En position 1-2, 1 bémol 2 ou 1-9, 1 bémol 9. Et là, on est en plein dedans. Et comment elle sonne, cette position ? Personne joue ça. C'est quand même dommage. encore le sus 4. Et là, et ça, alors c'est ça, ça c'est quand même intéressant, c'est que ça on dirait du Bill. Ça c'est une position que Bill Evans pourrait faire. Que ce soit les micro-pédales ou sur les pédales, on a un sol, on a l'accord de sixte augmenté ou le sus 5, dominant chromatique, peu importe comment vous l'appelez, mais avec le fa dièse qui est déjà là. Voilà. Alors on l'a entendu avant, mais il se trouve qu'on a ça. Et ça, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à l'intro de Here's That Funny Day. Oui, c'est ça, j'ai pas fait de bêtises. Donc, c'est étonnant parce que alors, ils ont les mêmes idées, mais est-ce qu'il y a une influence? Est-ce qu'ils sont allés boire à la même source? Je ne sais pas. C'est quand même assez étonnant. C'est, bon, c'est pas exactement la même chose, il ne faut pas exagérer. Mais voilà, on fera le bilan après. OK. Pardon. Oui. Le fa dièse qui arrive. Et puis enfin, le si majeur 7. Donc, on revient au premier degré, mais dièse 5. Dièse 5 qui va à 6. Vous voyez, encore une fois, toujours ce mouvement, c'est-à-dire 7 qui va à 6, ou alors dièse 5 qui va à 6, et mouvement contraire, alto ténor. Ce qui fait que, on arrive sur quoi? On arrive sur sol dièse, basse de si. Et c'est intéressant parce que ça, en réalité, ça nous rappelle que dans les familles, les groupes de toniques, on a 1, 3 et 6. Et 6, en réalité, vous avez bien qu'on va de si majeur 7 à 6, 6, et quand on fait l'anatole, on fait 1, 6, 2, 5, 3, 6, 2, 5. 1 et 6, c'est cousin, c'est la même chose, comme 2 et 4, c'est cousin, comme 5 et 7, vous voyez? Oui, on a fait le tour, voilà, 1, 3 et 6. Ensuite, on continue, donc... On fait l'anatole, le 6, sol dièse, le 5 du 2, mais cette fois-ci avec en plus la 13e mineure et la 10e mineure qui fait son mouvement bémol 10, bémol 9. Et puis, on termine, et là, il y a du pétard. Oh, do dièse 7. D'accord, l'ocrien bémol 4, là, désolé, je suis obligé d'appeler le mode, c'est le plus simple, avec en plus là, des intervalles qu'on n'est pas habitué à entendre ici, là comme ça. Ok. Donc on est censé faire do dièse, fa dièse, si, on va retourner en si. Donc ça, celui-là, on le comprend, on aurait dominante de la dominante, le do dièse qui est censé être do dièse mineur, tout à l'heure il l'a fait même do dièse mineur 7 bémol 5, cette fois-ci il le fait do dièse 7, l'ocrien bémol 4, altéré, donc c'est-à-dire que c'est le 7e degré de ré mineur mélodique, ok. On tient ça, et qu'est-ce qui se passe là? Oh, là ici, ça pique ça. Et ça, c'est quoi? Gamin 2 de Do. Voilà, on tient ça, qui se résout et qui devient lydien. Oh, voilà. On a cru avec la 10e mineure, on se dit, ah, mais en fait, c'est gamin 2, c'est du demi-tonton, si vous connaissez. Et en fait, et on s'achemine vers un Do lydien, on est sur un lydien dominante, ok. 4e degré de sol mineur mélodique. Et ça y est, on revient en si majeur. Petit bilan sur les deux arrangements, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Bon, c'est le même ton, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose en commun. Je fais quelques rapprochements parce que, évidemment, on retrouve quelques positions, quelques trafics, mais c'est un peu pour dire que... pour peut-être qu'on s'interroge ensemble sur peut-être il y a des éléments historiques qui vont ressortir que je n'ai pas, mais oui, ils ont... Enfin, cela dit, je connais bien les deux cocos, un peu, je connais le pédigré, mais voilà, quand je creuse les deux, je me dis, c'est marrant peut-être de voir que... Je pense pas qu'il y ait une influence, si, mais je sais pas s'il y a des emprunts, je pense pas. Bill fonctionnait pas comme ça, il n'empruntait pas beaucoup de langage, pas de la façon qu'on entend. Mais peut-être sans doute une intuition commune. Moi, je vois ça plutôt comme ça. C'est-à-dire l'intelligence des conduites de voix, quand on a écouté, puisqu'ils ont écouté sans doute les mêmes œuvres et les mêmes compositeurs, ben, je pense qu'on arrive un peu au même procédé. C'est ce que disait Claire Fischer, on a eu les mêmes idées au même moment, parce que forcément, vous avez une mélodie donnée, une tonalité, et puis y a un peu des choix qui s'imposent. Mais malgré tout, on voit bien que chez Claire Fischer, c'est quand même assez... c'est quand même assez incroyable, quoi. Bernard disait, le Bill Evans, le champion des conduites de voix, toute catégorie. On va pas faire un concours, c'est pas le genre de la maison, je trouve que c'est pas très intéressant. Mais je me demande si je mettrais pas Claire Fischer quand même en première place. Ce qu'on voit là, dans l'écriture. Alors peut-être, il faudrait faire une nuance, c'est que peut-être que Bill Evans a un côté peut-être plus improvisé. On sent peut-être que dans la façon qu'il a de jouer son arrangement de Here's That Funny Day, il a des chemins. On sait que quand il a fait l'enregistrement, il était chargé à mort. Enfin bon, il y a tout un... Je ne rentre pas dans les détails de la prise. Quoique ça peut être intéressant pour comprendre peut-être l'introspection du disque, mais bon. Enfin, en tout cas, on sent qu'il y a une liberté, peut-être que c'est moins écrit. On sent que Fischer, là, dans cet arrangement, c'est un peu... Moi, je pense que là, ces mesures-là, il les a préparées. On sent qu'il y a... C'est très difficile d'improviser ce degré de précision de conduite de voix. Donc, je pense qu'il s'est arrangé sa propre partie de piano. Il a bien fait. Et au même titre qu'il a arrangé pour tout le reste de l'orchestre. Il faut écouter la suite. Hein. Je n'ai pas précisé. Je n'ai même pas cherché à m'étonner. On va se faire péter la chaîne, ça ne sert à rien. Et puis, comme c'est du piano, je le joue moi. Évidemment, je le joue moins bien qu'eux. Mais ça ne change rien. Donc, comme ça, on est tranquille. Je mettrai les liens en description. Par contre... Allez écouter, c'est très court. Hein. Alors, Alone, il faut écouter tout le disque, mais vous écoutez cette version. Et la version de Claire Fischer, elle est vraiment... ça dure 2 minutes, 2 minutes 30, c'est très très court. Et la suite, c'est latin un peu, c'est joyeux, c'est beau, c'est monstrueux, quoi. Donc, Claire Fischer, quand même, les conduites de voix, ça barde, ça barde sérieusement. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a du génie au sens où, voilà, comme je vous montrais un petit peu... Allez, écoutez Shostakovich aussi. Hein, on sent la parenté, on sent... on voit à quelle source il est allé s'abreuver, mais enfin, quand même, le propre du génie, c'est quand même d'apporter des éléments de rupture dans le langage, dans l'art, même s'il y a une filiation, même s'il y a une tradition, même si on est influencé, il y a quand même l'émergence d'éléments, que ce soit chez Bill Evans ou chez Claire Fischer, qui ne préexistaient pas. C'est patent, c'est flagrant, c'est évident, il n'y a pas de discussion possible. Donc pour moi, ce sont deux génies, deux œuvres de rupture dans des domaines différents, puisque l'intro de Bill est assez découpée et Claire Fischer, c'est rubato. Mais voilà, c'est deux grandes œuvres. Il n'y a rien de plus à dire, c'est monstrueux. Écoutez tout ça. Voilà, vous pouvez, comme toujours, commenter, liker, vous abonner. Portez-vous bien, faites de la belle musique et on se voit très vite.